Merci d'avoir fait référence à l'UNESCO, dont l'article 2 de l'acte constitutif dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix ». Voilà. Je me suis toujours interrogé sur le fait qu'on avait le siège mondial de l'UNESCO à Paris, en France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a des grands textes internationaux. Alors les déclarations n'ont aucune valeur juridique, mais les conventions aussi, puisqu'elles se placent entre notre constitution et les lois. Et je me demande si une façon de bien l'une des façons de contrecarrer des propagandes comme celle qui est affichée, enfin qui était affichée précédemment, n'est pas de montrer aux élèves qu'il n'y a pas que les valeurs de la République française, mais qu'il y a des grands textes internationaux qui sont le fruit de la coopération de centaines et de milliers d'intellectuels et de responsables politiques du monde entier, enfin la majeure partie du monde. Je parle en tout cas de ceux de ces textes qui sont ratifiés par la France, comme par exemple la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en 89, et bien d'autres exemples.
Alors, effectivement, c'est une piste pédagogique intéressante. Ce que dit Meuret et Lambert dans un article de 2011, c'est que les contradictions qu'on voit sur la diversité des postures, elles montrent aussi que gouverner l'école, alors je le cite, hein, gouverner l'école au nom d'un pacte social laïque, en attendant de lui qu'il définisse les buts et les modes d'action de l'école, est une utopie controversée. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur tous ces textes qui viennent d'en haut, entre guillemets, hein, qui ont été pensés par ailleurs, par des collectifs dont vous parlez, des collectifs politiques, mais il ne suffit pas de les décréter pour avoir une adhésion, en tout cas, ou une seule forme d'interprétation de cette utopie. Hein. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'appelle une utopie controversée, pour le coup.
Le contexte d'attentat a amené sur la place publique la question de transmission des valeurs. À un moment où l'éducation nationale entretenait encore le débat instruction-éducation, donc avait une distance importante entre les deux, est-ce que vous ne pensez pas que la question de fond, c'est que la transmission des valeurs suppose qu'on les mette en œuvre et que cette mise en œuvre remet en cause l'organisation de l'école qui est basé sur des valeurs qui sont bien éloignées de celles qu'on prétend transmettre.
Bien entendu, oui. Certainement que dans la structure, en tout cas la forme scolaire disciplinaire, a été fondée sur le projet d'instruction. Et certainement que si on remet l'accent sur une autre, hein, comme le dit, je ne sais plus où c'est, l'intro de la charte de la laïcité, là, la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République, ça remet en question la structuration et la forme disciplinaire.
Merci. Il y a effectivement une tension entre pôle de l'instruction et pôle de l'éducation, mais qui est une tension historique, hein, entre toujours cette crainte de basculer dans une école qui soit orientée vers la pacification des classes laborieuses. Hein, donc ça, ce spectre-là, je pense que tout le monde l'a à l'esprit, et c'est ce qui explique que chaque fois qu'on a un retour de la moralisation, on se dit « Ouh là là, attention !» Enfin, je pense au livre de Ruvanogy, hein, sur... Mais il me semble qu'il y a aussi du côté que la forme scolaire implique aussi une vie en communauté. Alors il y a toujours le problème, hein, quand on parle même de démocratie lycéenne. Les limites de la démocratie lycéenne, c'est dans quelle mesure les lycéens ont-ils véritablement un droit de participation. Et les études montrent que bien souvent les lycéens, ils y croient pas trop à la participation dans les instances, parce qu'ils se disent en fait bon, mais personne ne le prend au sérieux, alors il faut que j'aille dans le comité d'éducation. Voilà, citoyenneté, et en fait tout le monde s'en fiche. D'ailleurs, parfois même les acteurs ne prennent pas toujours au sérieux ces instances-là non plus. Hein, les étudiants CPE que je fréquente me disent qui sont souvent AED, me disent que parfois les collègues, ça les intéresse pas tellement. Là, ils y croient pas trop aux droits des lycéens. Et ça a une vraie tension. Hein, comment est-ce qu'on peut apprendre à devenir citoyen en exerçant la participation alors qu'on n'est pas encore citoyen de plein droit et que les enseignants sont toujours responsables des règles qui se passent à l'intérieur. Mais en même temps, il y a quand même une petite part de jeu. Enfin, c'est pas une hiérarchie brutale. Il me semble qu'on va aussi... On a aussi intégré quelque chose comme un apprentissage de l'égalité, une initiation. Donc, je pense pas que ce soit tout à fait exclu, hein, cette dimension d'apprentissage des valeurs par la pratique par la pratique des règles. Il y a une part de discussion possible, quand même.
Il y a une part de discussion, sauf que c'est ce que perçoivent les lycéens certainement, c'est que à l'école on joue à la démocratie participative. Donc ils acceptent d'y jouer, hein, suivant leur degré de résistance au système, mais ils se rendent bien compte ensuite que dans la réalité, la démocratie participative, c'est quand même chez nous, c'est plutôt représentatif. Donc voilà. Et puis on ne pose pas les questions sur, par exemple, sur les missions de l'école. On ne peut pas dire que il y a eu un débat sur. Enfin, il y a eu quelques consultations, hein, notamment au moment de la préparation de la charte de la laïcité. Mais la place des citoyens dans la définition de la mission de l'école, je pense que c'est une question qui mériterait d'être posée sur la table, hein. Et d'être résolue en termes de démocratie participative, pour le coup.
Moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je suis toujours frappée par rapport aux jeunes. Bon, moi, j'ai travaillé, j'ai un parcours plutôt en collectivité territoriale, en département, où j'ai beaucoup travaillé sur les questions notamment de discrimination, d'égalité, des chances. Et maintenant, je suis à PJJ, donc voilà, plus avec des jeunes en difficulté, et donc sur la radicalisation. Et il me semble qu'on a une grosse difficulté, alors je sais pas si c'est partout, mais en tout cas en France, sur toutes ces questions de discrimination, d'égalité des chances, de la part des professionnels, où il faut vraiment aller plus loin vers la formation des professionnels et vers l'exemplarité, vers la pratique que ces professionnels doivent appliquer, hein, vis-à-vis des élèves. Et moi, j'ai quand même le sentiment, pour avoir participé notamment à une recherche-action, hein, sur l'agglomération grenobloise, sur la question des discriminations, avec des enseignants qui s'interrogeaient sur la manière dont eux aussi pouvaient discriminer, hein, les élèves, et qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce que ça provoque comme violence, hein, puisqu'on est toujours en train de se dire on va éduquer les élèves à la discrimination, on va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, voilà, la violence que ça peut provoquer. Quand du côté des adultes, ben c'est pas là, c'est pas du tout ça qui se passe, et y compris par rapport à la démocratie participative. Moi, j'y crois, la démocratie participative. J'ai été élue à Grenoble, voilà, à l'agglomération. Je pense que c'est possible. On le pratique, mais ça nécessite un cadre très clair, et ça nécessite que tout le monde joue le jeu. Et pas que les dominés, on va dire. Hein, voilà, ça nécessite que ceux qui ont la main, les dominants entre guillemets, donc les élus par exemple, ou bien les professeurs dans les classes, ou bien les proviseurs dans leur lycée, jouent le jeu. Ça veut dire ça. Sinon, effectivement, plus personne n'y croit, et ça crée d'autres choses. Ça a des effets. Ça a des effets négatifs, et ça a souvent des effets de violence. Voilà, je suis un peu là, c'est un peu au bout de deux jours, là, ici, dans ce séminaire, où je me dis, ben, plus que jamais, les adultes doivent se former à ces pratiques, parce que les jeunes, en fait, eux, ils sont dans une société, ils ont intégré beaucoup de choses sur la discrimination, sur la non-égalité, et si vraiment dans le discours des adultes il y a une voie pour changer, c'est d'abord la pratique qui doit être là, voilà. Et ça, vraiment, c'est pour moi assez essentiel. Sinon, on va vers de plus en plus de violence, parce que voilà, parce que c'est pas possible d'entendre des choses avec des adultes qui eux-mêmes ne pratiquent pas, quoi, voilà.
Je vais me donner la parole là, une minute. En entendant tout ce que vous dites, j'ai l'impression que l'incantation des valeurs de la République, qu'on nous ressasse les valeurs de la République, etc., depuis notamment depuis les attentats, mais bon, c'est pas bon, plus particulièrement en contexte d'attentats. Je me demande si c'est pas en partie contre-productif, c'est parce que d'une part, tout le monde se rend bien compte, et particulièrement les jeunes dont on parle ici, que la République n'est pas à la hauteur de ses valeurs, déjà. Hier, quand je parlais des principes de la République, évidemment, et la laïcité, c'est des principes, la réalité n'est pas à la hauteur, et les pratiques ne sont pas à la hauteur des principes, ça c'est une première chose. D'autre part, ni l'école ni la République ne sont cohérentes avec leurs propres principes, si on invoque liberté, égalité, fraternité. Ça c'est encore un aspect. Et d'autre part, je pense que ça ouvre la voie à la critique de ce qu'on pourrait appeler de façon très générale la religion civile, ce qu'on voyait là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond il y a une sorte de religion républicaine qui se réinstaure par moment, que se réaffirme par moment, qui passe par des rites, hein, la minute de silence c'est un rite, au fond ça finit par devenir une sorte de choc de religion contre religion dans une perspective complètement relativiste, c'est-à-dire il y a les religions et puis il y a ce que vous nous dites, mais après tout c'est encore une religion, quoi. Voilà, et je pense que c'est une interrogation qui est importante. Oui.
Oui, moi je voulais intervenir par rapport au manque de formation des enseignants, parce que moi je suis enseignante d'histoire géo en collège REP Plus à Vaux-en-Velin, et sincèrement le lendemain du 8 janvier, le 8 janvier, mes collègues venaient me voir en me disant bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que les collègues d'histoire géo, déjà nous, on ne sent pas toujours forcément très formés à l'animation du débat, et notamment avec les programmes de MC. Mais je vois les collègues de maths, d'anglais, d'espagnol, qui se retrouvaient avec les élèves sur le moment de la minute de silence, se sont retrouvés complètement désarmés et dans des situations conflictuelles, parce que n'ayant pas forcément les moyens de répondre, et étant eux-mêmes quand même sous le choc de ce qui s'était passé, n'arrivaient pas à avoir cette distanciation pour permettre aux élèves de réfléchir. Et donc ça pose vraiment la question de se dire pourquoi on attend toujours le moment de la crise pour anticiper ça. Donc ça pose la question, il me semble, des programmes, mais aussi de la formation des enseignants, parce que on n'est pas du tout, on a encore cette logique très disciplinaire dans notre formation, qui fait que quand il y arrive des événements comme ça liés aux valeurs de la République, on va vite voir le prof d'histoire géo en lui disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Et nous-mêmes, on était quand même sacrément embêtés. Et on a eu toujours, et c'est vrai que les profs d'histoire géo, on est toujours assez sollicités, parce que ils ne savaient vraiment pas quoi répondre. Donc il y avait tout ce travail-là qui était très difficile dans un contexte émotionnel fort. Et nous, le lendemain, avec des élèves à Vaux-en-Velin, qui étaient quand même assez provocateurs, mais sincèrement, pour l'avoir fait, j'ai travaillé sur les caricatures de Charlie Hebdo avec des élèves de Vaux-en-Velin, un lendemain d'attentat. Et oui, on a l'impression d'aller au front, mais ça se fait. Après, ça pose aussi le vrai problème de la connaissance de nos élèves. C'est-à-dire qu'il y a une formation à avoir, je pense, sur le didactique, sur ce qu'on enseigne, sur qu'est-ce qu'on veut transmettre, mais aussi de prendre en considération, nous, en tant qu'enseignants, quelles sont les représentations de nos élèves en termes de religion. Et on se rend compte que parfois, il y a sincèrement chez les enseignants beaucoup de doxa et de présupposés sur le rapport de nos élèves à la religion. Et voilà, je prendrai un exemple tout bête, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours persuadé qu'ils sont vraiment dans un prosélytisme, notamment avec la religion musulmane, mais il y a vraiment une forte méconnaissance, et il y a une appropriation de la religion par une provocation et un réflexe identitaire, puisque ça ne gêne pas mes élèves de 5e de mettre un minibar au milieu de la mosquée, parce qu'ils confondent le minibar et le minbar. Voilà. Donc c'est vraiment pour montrer que parfois on leur met sur la tête ou dans leurs paroles des convictions politiques religieuses qui sont très facilement démontables quand on discute avec eux un tout petit peu, et quand au final ils nous disent ah mais madame vous connaissez le Coran? Oui, un petit peu. Voilà. C'était vraiment le manque de formation, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus.
Alors sur la formation, effectivement, c'est d'ailleurs une des implications, hein, dans l'article, vous verrez, c'est un fil qu'on tire à la fin. Il y a aussi donc que les enseignants soient conscients qu'il y a une diversité de représentations chez les élèves, mais il y a aussi qu'ils prennent conscience de leurs propres représentations et qu'ils les explicitent. Hein, mon collègue Clément dit il s'agirait de permettre aux enseignants d'être dans la formation, d'être conscients de leurs propres valeurs, de ne pas en être prisonniers, de ne pas les imposer à leur insu, et de mieux comprendre celles des élèves auxquels ils s'adressent. Donc il faudrait y travailler aussi sur ces questions de réflexivité dans la formation des enseignants. Mais bon, vous avez passé le concours, vous voyez bien que c'est des moments rares.
Oui, je m'appelle Palos Pereira, je suis professeur de philosophie. Et je voulais vous poser une question et en même temps faire une remarque concernant notre débat. Parce que parfois, je ne sais pas si c'est vraiment un débat, étant donné que vous avez proposé le sujet éducation aux valeurs humanistes. Mais jusqu'à présent, tout le monde parle des valeurs humanistes de manière implicite. Je me demande ce que chacun pense au sujet de ces valeurs, qu'est-ce qu'il entend par ces valeurs humanistes. Il me semble que c'est important quand même d'en dire un mot, peut-être. J'aimerais entendre d'abord ce que...
Alors, je vais me faire le lâche, je vais me réfugier dans ce que dit l'UNESCO. Pour eux, les valeurs humanistes, c'est préserver et promouvoir la dignité, les capacités et le bien-être de la personne humaine, en relation avec autrui et avec la nature, le respect de la vie et de la dignité humaine, l'égalité des droits et la justice sociale, la diversité culturelle, et le sentiment de solidarité humaine et de responsabilité partagée vis-à-vis de notre avenir. Bon. Ça ne dit pas comment on fait, hein, mais demander ce qu'on entend par valeur humaniste, c'est ces fondements-là. Alors vous qui êtes prof de philosophie, vous avez certainement une réponse un peu plus élaborée.
Je prétends quand même avoir une plus élaborée, mais je pense que...
Enfin, vous avez travaillé la question, normalement.
Quand on parle de ce sujet des valeurs humanistes, est-ce qu'on en entend les valeurs de la République, par exemple? Est-ce que ce serait les valeurs de l'homme?
Oui, de l'homme.
Parce que quand nous parlons les uns et les autres, on y fait référence, mais on ne le précise pas.
Ouais.
Alors, les valeurs, l'éducation aux valeurs humanistes en contexte d'attentats, quelles seraient ces valeurs? Est-ce que ce seraient les valeurs de l'homme ou les valeurs du citoyen français?
À titre personnel, je dirais que c'est les valeurs d'homme.
Oui. Enfin, j'espère, moi aussi, je pense que c'est les valeurs humaines.
Oui.
Mais
référence au droit de l'homme, si
ce qui m'intrigue, en fait, c'est qu'on en parle comme si c'était quelque chose de convenu.
Vous avez raison, il faut l'expliciter.
C'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord.
Oui.
Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur les valeurs humaines. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir.
Et probablement la diversité des postures reflète aussi ça. C'est un manque d'accord sur ce que c'est une valeur humaine. Et à la confusion avec les valeurs de la République, certainement. Oui.
Bonjour, je me présente, Bertrand Sivès, donc également professeur en histoire et géographie. Et accessoirement, je finis ma thèse en histoire d'éducation sur l'éducation populaire à Lyon. Et ce qui me frappe finalement, c'est que l'institution scolaire au sens large du terme m'apparaît comme relativement isolée. Je vais m'expliquer. Je travaille sur la période 1896 jusqu'à 1957. Et la problématique que rencontre le milieu de l'enseignement, c'est toujours diffuser les valeurs de la République. Et à cette époque, on s'appuie sur un réseau d'œuvres qu'on considère comme complémentaires de l'école, qui donneront plus tard tout ce qui est CMA, Franca. Et ces œuvres fonctionnent avec des enseignants qui militent, mais des parents d'élèves, des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement directement. Mais tous ces gens se retrouvent autour de ces valeurs et organisent le jeudi après-midi, l'été, des actions pour les enfants et adolescents de l'enseignement public. Et tous déclarent défendre les valeurs de la République et les font vivre aux enfants en dehors du temps scolaire. Or, ce lien avec ce réseau associatif, social, me semble être complètement disparu aujourd'hui dans les faits. Et finalement, on a une institution scolaire qui se donne un but de promotion de ses valeurs, mais qui n'a pas de relais, de courroie de transmission dans la population autre que l'enseignant.
Alors, la création de la réserve citoyenne va certainement dans ce sens-là, hein, dont on parle souvent avec Charlène Ménard, à la suite des assises régionales pour la laïcité, là, enfin pour la défense. C'est probablement ça qu'on essaie de reconstruire, c'est d'avoir un pôle de professionnels qui partagent la même valeur et qui dans des actions de coéducation pourrait relancer ce genre de mouvement dont vous parlez historiquement. Vous l'avez regardé un peu là, le fonctionnement de la réserve citoyenne ? Parce que je pense que ce serait un parallèle intéressant par rapport à ce que vous voyez historiquement. Oui, bon. Oui, ça va.
Je voudrais revenir juste sur la question de la formation des enseignants et en lien avec la question de du traitement de la minute de silence. Moi, j'interviens juste en tant que formatrice à l'ESP et vous soulignez le caractère très disciplinaire de la formation des enseignants, surtout pour le secondaire, hein. Mais c'est vrai aussi pour le premier degré, parce qu'on constate que quand on construit les maquettes, qu'on négocie pour voir où est-ce qu'on va pouvoir caser les formations, il y a quand même toujours un conflit entre les enseignements transversaux, hein, le tronc commun de formation, et les enseignements disciplinaires, et généralement le tronc commun de formation est très mal vu. Parce que le tronc commun de formation, c'est du temps qu'il prend aux disciplines et il a aussi mauvaise réputation. Parce que c'est du non-disciplinaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de travail sur les savoirs. Et il y a ce côté mal vu du tronc commun de formation, je pense qu'on le paye aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à trouver sa place. Il a beaucoup de mal à trouver sa place. En même temps, c'est pas facile de le conduire, parce que dans une perspective interdisciplinaire, si on veut vraiment faire du concret, il faut être aussi au plus près des situations. Donc peut-être que c'est pas seulement en formation initiale, mais bien en formation continue qu'il faudrait l'investir. Mais là, on a un problème aussi avec la formation continue dans notre pays, hein, qui est pas très développée, qui est très difficile à mettre en place, parce qu'il faut que les collègues soient libérés de leurs cours, ce qui est pas facile pour les établissements. Mais sans doute que ça, c'est un des aspects. Et plus concrètement, par rapport à justement, ces savoirs, je dirais, pratiques orientés vers le métier qui nous manquent. Effectivement, la question comme l'objet minute de silence, qu'est-ce qu'on en fait quand on est un enseignant, c'est une vraie question en soi. Et ça me renvoie aussi à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur la question du sacré qui n'est pas une catégorie pédagogique. Je pense qu'avec le sacré, avec la minute de silence, on touche de près cette question du sacré. Et on rejoint aussi la fameuse incantation sur les valeurs de la République. Et je pense qu'on s'est bien rendu compte que une minute de silence, c'est quoi ? Concrètement, c'est quoi ? C'est un moment de recueillement. C'est un moment de partage émotionnel. Et là-dessus, il y avait, je me souviens de l'intervention de Gilles Kepel quand il était interviewé dans le cadre du documentaire Prof en territoire perdu de la République, il a mis le doigt sur en fait le malaise qu'ont ressenti certains enseignants quand ils se sont rendus compte que certains élèves de leurs élèves ne partageaient pas l'émotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dire non ou rire quand on fait la minute de silence, il n'y a rien de plus agressif. Quand on se sent touché dans son émotion, qu'on se sent pris dans une communauté émotionnelle. Et il disait très bien que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on refuse la minute de silence ou qu'on en blague ou qu'on... En fait, on refuse de se situer dans la même communauté émotionnelle. Et là, on signifie très clairement, nous ne faisons pas partie du même monde. Et donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe et il me semble que cette dimension émotionnelle de la minute de silence qui touche quelque part au sacré, mais qui à mon avis, on peut la considérer comme touchant au respect sans pour autant en faire une chose sacrée. C'est là que je rejoins ce que je voulais dire quand je disais que le sacré n'est pas une catégorie pédagogique. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas la décréter. On ne peut pas imposer à des élèves de se recueillir. On peut leur demander de respecter l'émotion des autres. Ça, oui. Au même titre qu'on peut leur demander, qu'on peut demander à chacun de respecter les expressions du religieux. Et donc on peut faire droit, on peut entendre le malaise, la gêne que peuvent sentir certains élèves face à la représentation caricaturale de leur religion. Ça, on peut en parler. Mais il faut aussi qu'on puisse parler inversement de cette émotion qui touche une partie des concitoyens et qu'une minute de silence, on n'est pas obligé de se recueillir si on ne ressent pas, mais au moins qu'on respecte le recueillement des autres. Et il me semble que là, il y a quelque chose à discuter et que parmi les éléments qu'on peut apporter autour de la réalisation d'une minute de silence, c'est d'expliquer ce que ça signifie et qu'on n'est pas obligé d'y participer, mais que c'est important de respecter cette émotion des autres.
Merci. Le débat se déploie. Il y a encore 3 autres intervenants, c'est très bien.
Bonjour, Jean-Louis Roussel, formateur en histoire-géographie à l'ESP de Haute-Normandie, Rouen, et référent laïcité. J'aurais voulu vous inviter à réfléchir sur la différence entre la minute de silence de janvier et la minute de silence d'octobre. Je voudrais simplement évoquer des faits qui pourraient peut-être nous amener à avoir un regard un peu différent sur ce que vous nous avez présenté. Les événements ont lieu mercredi, la minute de silence était le jeudi matin. Nous avions nos étudiants qui étaient stagiaires, fonctionnaires stagiaires, en poste le jeudi matin, et c'est eux qui ont eu à gérer cette minute de silence dans les établissements scolaires, devant des collégiens qui n'étaient même pas au courant du fait. Donc je vous rejoins dans les explications que vous avez données, mais j'ajouterais aussi qu'il y a eu un énorme travail déjà d'expliquer aux élèves ce qui s'était passé. À la différence d'octobre, novembre, où les faits se sont déroulés le vendredi, et il y a eu tout le week-end pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé. Et puis la deuxième chose, c'est un petit peu, excusez-moi la comparaison, c'est un petit peu comme lorsqu'on a eu tous les morts à cause de la canicule, on garde la mémoire de ce qui s'est passé et on est capable d'apprendre aussi. J'évoquerai tout ce qui a été mis en ligne par l'Éducation nationale entre le vendredi des attentats du Bataclan et des brasseries parisiennes, jusqu'au lundi matin pour accompagner les enseignants qui devaient prendre en charge les classes le lundi matin. Il y a eu énormément d'outils qui ont été mis en place, en particulier, je suis obligé de le dire parce que j'y ai un peu contribué, un outil qui a été mis en place par Canopée pour expliquer quelle est la fonction de la minute de silence, quelle est l'origine de la minute de silence et comment, d'où ça vient et à quoi ça sert. Une toute petite vidéo très courte qui a été extraite d'un autre travail que j'ai fait dans un autre domaine. Et voilà, donc je pense qu'il y a ces éléments-là qu'il faut intégrer. On ne peut pas s'arrêter simplement sur la situation que vous avez décrite de janvier. Je pense qu'il y a des choses qui ont évolué. Donc par rapport, juste une toute chose par rapport à ce que vous évoquiez sur la réaction des élèves, moi j'ai été amené à expliquer à mes étudiants que s'il fallait comprendre la réaction des élèves, c'est qu'il avait fallu déjà leur expliquer les faits, qu'est-ce qui s'était passé. Pour eux, c'était absolument incompréhensible d'être dans l'empathie parce qu'ils ne comprenaient rien du tout de ce qui s'était passé entre la veille et le lendemain. Quoi.
Alors, quatre autres demandes d'intervention.
Alors, Hélène Bitouzé, personnelle de direction dans un collège du Rhône. Moi, je voulais juste apporter un éclairage aussi sur le fait que l'institution, pour moi, est aussi très soumise dans ses injonctions, autant à l'émotion, à la temporalité de l'actualité, enfin je ne sais plus comment vous l'appeliez. Et je vous donne un exemple. Donc l'année dernière, suite aux attentats, tout le travail sur la laïcité était devenu priorité nationale. Début juin, les chefs d'établissement, les proviseurs en lycée, on leur demandait de trouver un petit peu dans l'urgence des enseignants susceptibles d'être des référents, en tout cas formés sur la laïcité, pour devenir formateurs de leurs propres collègues au sein des établissements. Alors on sait qu'en juin, il n'y a plus grand monde dans les établissements scolaires. On avait anticipé un petit peu dans les collèges, puisqu'on savait que cette demande arriverait à la rentrée. Elle nous avait été formulée. Et puis à la rentrée, comme tout le monde le sait, la priorité était devenue la réforme du collège. Donc toute cette question de la laïcité, en tout cas des référents dans les établissements scolaires, cette question a été abandonnée, ce que je trouve fort dommage, c'est-à-dire qu'on ne tire pas vraiment les leçons, il y aura un prochain attentat et à nouveau les enseignants vont être démunis. Je suis tout à fait d'accord avec la collègue de Vaux-en-Velin, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les enseignants dans ces questions-là, les former. Beaucoup ne se sentent pas légitimes, hein, je suis entièrement d'accord, en dehors des professeurs d'histoire géo, il y en a beaucoup qui ne souhaitaient pas aborder ces questions-là, ayant très peur. Donc voilà, je le regrette un petit peu parce que il y avait un terrain intéressant de pouvoir former certains collègues et ça a été abandonné au bout de quelques mois puisque la priorité maintenant est la réforme du collège. Voilà.
Merci.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez concernant la formation. Pour être engagé dans un master de formation de formateurs, et je travaille avec l'Université de Clermont, on voit toute la difficulté de faire du lien entre les disciplines dans le secondaire et toute la nécessité de travailler sur les masters. Donc je pense que les masters MEF sont une belle avancée, mais on voit qu'il y a une négociation toujours difficile entre le disciplinaire et le transversal. Mais vraiment, il y a une question à avoir autour de la réflexion sur la formation continue. Parce que, sincèrement, mes collègues, ce qui était ressorti, c'est qu'au moment des attentats de janvier, il y avait une confrontation de culture. Et je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que parfois des enseignants se sentent presque obligés de devoir adhérer ou avoir une certaine position par rapport aux questions religieuses et notamment au moment des attentats et avoir l'impression qu'ils sont obligés d'entrer dans un rôle et d'où le sentiment d'être très très mal à l'aise. Sur la minute de silence, il est vrai qu'on a vu une vraie évolution entre janvier et novembre. Et je pense que, sincèrement, il y avait aussi une émotion qui était beaucoup plus partagée,
et c'était beaucoup moins conflictuel parce que bien moins marqué sur les enjeux politiques. Donc on n'avait pas du tout le même rapport. Et par contre, ce que j'ai trouvé qui était très intéressant de la part des élèves au mois de novembre, c'est que moi j'ai eu un cas d'élève de classe, j'étais pas là le lundi, et je reviens le mercredi. Le mercredi, la classe de quatrième, on en parle, j'avais fait un diaporama pour... Bon ben voilà, j'avais profité pour faire un peu de MC, de travailler sur le vocabulaire, sur ce que c'est qu'un djihadiste, un extrémiste, etc. à partir de vidéos et d'articles. Et puis les gamins, au bout d'un moment, me disent « Oui mais madame, nous on l'a pas fait la minute de silence. » Je leur dis « Ah bon, pourquoi vous l'avez pas fait ?»« Eh ben parce qu'on finissait à 11h, donc ben nous on a été lâchés à 11h, on n'a pas fait la minute de silence. » Et donc je leur dis « Ben vous en pensez quoi vous de cette minute de silence ?»« Ah ben ça serait bien qu'on la fasse. » Donc je leur dis « Ben oui, mais pourquoi vous voulez la faire ?» Et donc il y en a un qui dit « Ben maintenant qu'on a compris ce qui s'est passé, on trouve plus intéressant de la faire. » Et là, il y en a une qui lève la main, qui dit « Oui, mais alors en France, hein, quand même... » Et bon, je rappelle, on est à Vaux-en-Velin quand même, hein, donc nos gamins, qu'on dit toujours, quand même pas très doués, preuve qu'ils le sont plus qu'on le pense, me dit « Oui, madame, super, donc parce qu'il y a des attentats en France, alors on voit qu'il y a du Paris partout et des tours Eiffel de partout, mais bon, il y a des attentats partout en Afrique et on dit jamais rien, ça passe 2 minutes aux infos et franchement, c'est pas bien normal, on a l'impression qu'on est plus important que les autres. » Donc on en profite et c'est l'initiative des élèves qui a été de dire « Et si on faisait une minute de silence, mais pour toutes les victimes des attentats et tout ça ?» Et en fait, j'avais pas prévu d'engager un travail là-dessus, mais on a continué ce travail-là sur les attentats, la représentation, l'empathie, pourquoi est-ce que il y a eu plus de défaits sur la France ou tout ça. Donc il y a vraiment une question de temporalité parce que je pense que les choses évoluent, les élèves aussi, et partir des représentations de nos élèves, c'est parfois pas mal aussi. Et je pense que dans le cadre du débat, on s'interdit trop souvent de leur donner la parole parce qu'on se sent pas prêt à assumer la divergence de point de vue et la divergence de culture avec nos élèves.
Oui, moi je voulais donc revenir sur c'est la minute de silence hein, pour le replacer dans le contexte, puisque effectivement en novembre, donc on a eu aucun incident hein, ou presque. Et puis il y avait un autre moment aussi qui était qui aurait pu être source de tension, c'était le 9 décembre, puisque c'était la journée de la laïcité. Et nous on était attentifs hein, pour voir ce qui allait se passer à ce moment-là. Et tout s'est bien passé aussi. Alors moi l'analyse que j'en fais, c'est que en novembre, pour la première fois, on a placé des mots sur ce qui se passait, et notamment un mot très fort, qui est celui de guerre. Alors après, on peut en penser ce qu'on en veut. Je sais que c'est pas consensuel ce que je vais dire. Mais pour une fois, les jeunes donc ont eu le sentiment qu'on ne trichait pas, qu'on leur disait la vérité. Et à partir de là, tout naturellement, on a eu donc des gains de ce qu'on appelle nous de cohésion citoyenne, puisqu'on a vu aussi beaucoup de jeunes qui ont voulu qu'on frappait aux portes de l'armée hein, pour s'engager, mais pas simplement pour s'engager dans l'armée, aussi sous ce qui est force de police, ce qui a trait aussi à la solidarité, etc., etc. Donc ça, si c'est pas de l'engagement citoyen, ou si c'est pas de la citoyenneté sacralisée, on va dire, mais qui est... Pour moi, c'est bon signe, hein. Si vous voulez, c'est dans l'adversité, tout compte fait, qu'on retrouve aussi les ressources, les solutions. Hein. À y repenser, la citoyenneté, moi je ne vais pas reprendre Gilles Debray, mais elle vient aussi d'une période révolutionnaire, notamment Valmy, hein, quand ta patrie est en danger. Et je me demande si ce n'est pas tout ça qui se joue aujourd'hui. Voilà. Alors bien sûr, évitons les dérives, etc., etc. Mais moi je pense que on va dans le bon sens. Alors pour replacer l'école, l'enseignement du fait religieux donc dans ce contexte, moi je voudrais conclure sur... pour reprendre les principes, les grands principes de l'art de la guerre. Dans le terrorisme, ce qui est recherché, c'est pas tant le côté stratégique, puisque là, vous avez des morts ici ou là. C'est malheureux, mais c'est pas ce qui va faire gagner ou perdre une guerre. Par contre, ce qui est important... c'est le côté psychologique. Voilà. Et c'est là vraiment le cœur du mode opératoire donc du djihadisme aujourd'hui, et que nous, l'école, forcément comme tous les éducateurs, mais l'école a vraiment là un rôle à jouer sur ce concept de défense civile, alors qui peut être aussi militaire, de façon à redonner un cœur, une âme à ce concept de citoyenneté. Et quand je dis citoyen, je reprends le citoyen au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc il y a de l'universel, il y a du particulier et il y a du singulier.
Oui, moi j'ai du mal à comparer les deux minutes de silence. Les événements étaient totalement différents. Il y en a le premier événement avec une dimension, avec le blasphème, très visé, et puis un deuxième événement où les élèves et les familles ont pu se projeter et imaginer que c'était eux. Donc c'était totalement différent. Effectivement, ça a été beaucoup plus facile à faire la deuxième fois que la première fois. Mais moi, tout de suite, je dirais, ces minutes de silence dans l'éducation nationale, une injonction comme ça, c'est pas bon. Moi, la première, j'étais en réunion, j'ai vu la tomber à 10h ou à 9h30 sur mon portable, la ministre qui demande la minute de silence. J'ai quitté la réunion, je suis vite parti sur mon établissement et ça s'est mal passé. Le ministère a dénombré 70 cas, ils étaient à Marseille, je peux vous le dire. Non, l'école, c'est le temps du politique, le temps de l'actualité, c'est pas le temps des apprentissages, c'est pas le temps de l'explication. C'est pas, il y a un travail de fond que l'on doit faire. Ce qu'a fait la jeune fille, où il y a eu une minute de silence décalée sur un domaine plus large, mais très bien. Voilà. Très bien. Ensuite, je voudrais revenir sur votre réflexion. Effectivement, la République ne démontre pas toujours des trois mots sur les frontons de nos mairies. Mais on peut pas attendre. On peut pas attendre. Et, on doit travailler dans ce contexte-là. Les projets d'établissement doivent prendre en compte tout à fait. Il faut démontrer aux élèves au moins de la volonté de laisser, de la volonté des établissements de faire vivre ces trois mots. Et c'est un travail, et sûrement la démocratie participative est un élément important. Mais nous, dans chaque action, il faut que le projet d'établissement prenne de manière explicite la volonté de démontrer aux élèves qu'on essaye de faire vivre, des fois de manière maladroite, des fois sans y arriver véritablement, mais qu'on va vers ces trois valeurs-là.
Oui, je voudrais préciser, j'avais pas l'intention de démonter les valeurs de la République. Je voulais juste, quoique j'ai fait partie de la génération de la culture critique développée dans tous les sens, et qui justement disait au fond, au nom des valeurs de la République, que la République n'était pas à la hauteur de ses valeurs. D'une certaine façon, la pensée critique des années 70-80, encore un peu, c'était ça. Ce que je voulais dire, c'est que il me semble qu'il y a une piste, et notamment dans ce qui avait été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, dans l'idée d'universaliser, de montrer qu'elles sont universelles. C'est-à-dire, il s'agit pas de sauter comme un cabri, comme disait l'autre, en disant République, République, République. Hein. Il s'agit française, sous-entendu française. Bon, qui serait la bonne République, qui intègre, etc., etc. Bon, mais je crois qu'il y a intérêt à travailler dans le sens justement d'une universalisation de ce qui est proposé dans la République et dans l'école, et de montrer que ces valeurs qui sont les droits de l'homme. On revient à la question de l'humanisme tout à l'heure. Alors, je crois qu'il y a une espèce de continuum qui a été instauré là entre la République, ce que préconise l'UNESCO, je crois que vous disiez tout à l'heure, l'humanisme, dans le sens effectivement d'une universalité et d'universalisation des discours portant sur, en gros, effectivement, la liberté, l'égalité, etc. Voilà. Alors, on parle de vivre ensemble. Moi, c'est une notion qui me... Bon, passons.
Oui, juste une petite chose que j'ai pas expliquée tout à l'heure, et j'irai dans le même sens que mon collègue. La journée de la laïcité était une belle initiative, hein, justement. Mais sur ce travail de fond, dans les établissements scolaires, cette demande, cette injonction nous est arrivée moins d'une semaine avant cette journée. Il était évident... Quand on s'est tourné vers les équipes pédagogiques, il n'y avait pas suffisamment de temps pour travailler quelque chose de qualité. Voilà, donc je serais curieuse de savoir combien d'établissements ont mis en place des choses sur cette journée de la laïcité. Et là, pour moi, c'était un coup d'épée dans l'eau, et on est passé à autre chose. C'est dommage.
Oui, je suis très intéressé parce que maintenant je suis à la retraite, mais j'avais une couverture de Volinsky pour un bouquin, c'était prémonitoire. La mort n'est pas au programme. Et donc, évidemment, j'étais touché comme les autres, mais je rejoins les intervenants qui disaient qu'on peut pas imposer une émotion. On peut imposer le respect pour des morts et le respect de l'émotion des autres. Mais il y a une certaine gêne quand même à vouloir célébrer l'esprit de l'humour Charlie, rendre obligatoire l'humour. C'est pas exactement le problème puisque c'est le respect pour des morts, mais c'est lié parce que ces morts sont liés à une conception de l'humour. Et puis il y a des contradictions de l'administration qui, dans le même temps, qui est fait semblant de prendre pour démartyr les dessinateurs de Charlie, dans le même temps fait semblant, c'est ça, c'est une impression de faire semblant, de prendre au premier degré le courrier interne d'un enseignant d'Avignon qui se moquait très gentiment du vocabulaire de Valls en disant qu'il espérait que pour une cérémonie de l'université, il y aurait suffisamment de blancos et pas trop de bronzés. Vous savez, cette affaire du professeur qui est passé en justice pour un courrier interne de...
Je voulais revenir sur la question de la République comme religion civile. Moi, je crois qu'effectivement, c'est important, un chantier à creuser, d'autant plus que vous l'avez montré dans l'extrait que vous avez pris de la revue là, de Daesh. L'exemple qu'ils prennent, c'est de dire justement la laïcité, la laïcité et la démocratie, c'est fausse religion. C'est-à-dire que pour eux, la laïcité, la démocratie, c'est des religions. Ce que vous dites, avec des rites, etc. Et faire une minute de silence, c'est quelque part faire pratiquer un rite, et du coup, qui n'est pas celui que leur conception à eux de l'islam. Donc, les deux minutes de silence, c'est vrai que ça nous permettait d'avoir du recul, et elles ont été, la deuxième était beaucoup mieux préparée. Alors, il y a la temporalité. Mais moi, pour la deuxième, notamment, on a eu quand même une mobilisation générale de tous les personnels. Et la connaissance des publics, comme disait notre collègue, c'est fondamental. Et je crois que les CPE, là, sont des personnes ressources très importantes. Ils ont une vision des élèves beaucoup plus globale. Et d'où ce travail encore plus à faire entre les enseignants et les CPE pour mieux connaître justement les élèves. Et là, je sur la question de Gilles Kepel, moi j'ai un problème avec Gilles Kepel, entre guillemets. Je trouve qu'il surdétermine la question du « eux », du « nous » dans ses études, dans ses... Alors c'est sûr, aller dans des territoires complètement quasi ghettoisés et nous démontrer que c'est déjà un ghetto. Bon, voilà, on le savait, enfin je vois pas... Enfin, je suis pas à la hauteur de Kepel, hein. C'est pas ça mon truc. Mais je trouve qu'il y a des choses un peu de redondantes et qu'on accentue, on tourne le couteau comme on remue le couteau dans la plaie. Le eux, le nous, avec des discours d'adolescents, parce que c'est quand même aussi des adolescents, qui se cherchent, qui se construisent, qui sont soumis à tout ce flux d'informations. On en a bien parlé hier des réseaux sociaux, etc. Et à qui, quand on tombe dans le piège du eux et du nous, eh ben ça va valider leur ben oui, ben c'est bien un complot, c'est bien ci, c'est bien ça. Voilà, donc essayer peut-être de prendre la distance, de décoder un petit peu ce qui est de la surface de leur discours et ce qui peut être de la profondeur. Et là, l'exemple que vous avez donné sur le mercredi, là, c'est fondamental. On est à Vanvelin en plus, enfin bon, sans stigmatiser Vanvelin, mais voilà, c'est des élèves qui demandent à être inclus dans la minute de silence, à faire partie de ce recueillement, comme leurs camarades de classe l'ont fait le lundi. Bon, les emplois du temps étant qu'ils ont fini à 11h au lieu de midi, mais la préparation avait beaucoup amené. Et puis sur l'histoire de Charlie, je voudrais me pointer qu'il n'y avait pas que Charlie, même si c'était quand même la cible principale. On a eu quand même voilà, l'hypercachère, la policière, et dans l'hypercachère, on a entre guillemets le héros, Batili, qui sauve un certain nombre de personnes, qui se trouve de confession musulmane, et en plus entre guillemets pratiquant, enfin qui raconte qu'il fait la prière dans l'hypercachère, etc. Enfin, complètement... Le profil complètement contradictoire des frères Kouachi et Koulibaly, etc. Donc voilà, il y a aussi la figure du héros.
Juste deux petits témoignages par rapport à la minute de silence ou les attentats, en fait. Je voulais dire que souvent, en tant qu'adulte, on a, en fait, c'est notre propre parcours aussi qui est en jeu, et que là-dessus, on attend de nous de jouer un rôle. Et on peut pas s'enfermer dans son statut. C'est-à-dire, en termes de, je sais pas qui là, Erwin Goffman, je pense, des souvenirs de sociaux. Le statut, c'est ce qu'on est en droit d'attendre des autres, et le rôle, c'est ce qu'on est en droit d'attendre de vous. Donc pour moi, qui suis prof de langue multilingue, enfin j'étais prof d'arabe, mais je suis maintenant prof de FLE, c'est toute une histoire, j'étais arrivée avec Charlie. Je suis Charlie dans toutes les langues, tout simplement, et j'ai fait vraiment ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire que le quoi de neuf et tout ça, parce que je les ai plusieurs heures comme ça dans la matinée. Et après, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes Charlie? Ou, je veux dire, ça a été une discussion des élèves entre eux. Il y avait des Albanais, des Turcs, des Nigérians et tout ça. Donc, en fait, je me pose même pas la question de savoir si on a dit d'en haut qu'il fallait faire ceci ou cela. Mais en tout cas, c'était ça d'abord qu'il fallait. Et puis, comme la poésie au service du français, c'était d'abord si tout le monde pouvait dire je suis Charlie, ou ne pas le dire d'ailleurs, je ne suis pas Charlie, dans les langues présentes dans la classe. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour les attentats de novembre, on a su très vite, en arrivant comme ça, qu'il fallait faire quelque chose, donc parler d'abord avec les élèves qui souhaitaient en parler, mais la minute du silence était vraiment décalé ou retardé, je sais pas quoi, à 5 minutes avant midi, quoi, avant la sonnerie. Et c'était le collège qui a donné la sonnerie. Et moi, j'ai pris sur moi de parler avec les élèves parce qu'ils avaient vraiment envie de parler alors qu'ils ont pas beaucoup de bagages linguistiques en français. Et il y avait un turcophone qui était vraiment réticent à la chose. Il venait de rentrer de Turquie, ils considèrent les Kurdes comme des terroristes, enfin bref, des trucs. Et ben, je les ai travaillés, je suis partie peut-être de l'émotion, j'en sais rien, mais en tout cas, je me suis sentie comme prenant parti des choses, et en fait, finalement, il a fait 5 minutes de silence, comme tout le monde, en cours d'anglais, à la 4e heure. Et je me sentais tranquille, mais ça veut pas dire que pour moi, c'était... J'avais même pas à me poser la question de dire est-ce que c'est comme ci ou est-ce que c'est comme ça pour certaines choses. Mais pour d'autres, c'est vrai que je me pose la question, et je me pose surtout la question, maintenant j'arrête pour les témoignages, de la formation continue pour, en ce qui nous concerne. Moi, je suis là, enfin je veux dire, si je suis là, c'est que j'y crois. Mais en même temps, je pense que souvent, quand on a envie vraiment de se former jusqu'au soir de sa vie, on décide de choisir ses formations, et on décide les postures, on trouve les choses là où on les cherche, parce que, par exemple, moi, je prenais sur mon temps, vraiment mon temps, un samedi par mois pour aller réfléchir avec des professeurs de philosophie qui travaillent en termes de démarche d'autosocioconstruction du savoir. Et ça, c'est pas l'institution ou le ministère qui me payait ça. Je veux dire, c'était mon choix, et c'est parce que c'est ma posture pédagogique.
Merci. Alors, deux mots, sera d'abord deux informations. La première, pour répondre aux collègues sur l'isolement de l'institution éducation nationale par rapport à l'éducation populaire. Il y a des dizaines et des dizaines d'associations complémentaires de l'enseignement public. Personnellement, je connais bien les clubs UNESCO, il y en a 200 en France, la plupart sont en milieu scolaire, mais il y a beaucoup d'autres associations. Donc par endroit il n'y a rien, mais par endroit il n'y a pas du tout d'isolement, il y a depuis des dizaines d'années des interventions. Deuxième point rapide, sur la réserve citoyenne, en tant que membre de la réserve citoyenne, je peux vous dire pas grand chose pour l'instant, parce que la réunion forte a eu lieu en décembre, le 17 décembre si je me souviens bien, à l'IRA, et donc nos premières interventions vont avoir lieu bientôt, voilà. Et puis, dernière chose, moi je veux bien une formation initiale continue, super parfaite, à perte de vue, bon, je suis persuadé, j'ai été prof, j'étais chef d'établissement, je suis persuadé que c'est dans le croisement des regards, dans le croisement des compétences, CPE, professeur, personnel de direction, inspecteur, etc., et que face au surgissement de faits inattendus comme ces attentats, et il y aura d'autres surgissements dans l'histoire, il ne peut pas y avoir une formation initiale et continue qui permette d'anticiper tout ça. Je crois qu'au contraire, beaucoup, comme l'a dit le collègue de Marseille, aux réponses de projets d'établissement, aux réponses collectives, croisées, aux regards croisés, et comme vous l'avez fort justement dit, madame, avec une prise en compte des élèves. Pourquoi ? Parce que le grand fait nouveau, c'est que depuis 20, 30 ans, 40 ans, nous avons des écoles monde. C'est-à-dire qu'il y a des enfants dont les familles sont issues du monde entier, ce qui n'existait jamais avant, ni en France, ni ailleurs. Voilà, donc ce fait est ainsi posée, et si nous avons les valeurs de la République, égalité de considération de toutes les personnes, élèves, professionnels, parents d'élèves, et après c'est tout l'art des équipes, et puis aussi avec l'apport des chercheurs et l'apport et le recul des chercheurs, de mouliner, de croiser tout ça à perte de vue. Voilà, merci.
Oui, peut-être pour conclure, je voudrais revenir sur cette minute de silence controversée, hein, parce que c'est quand même un des résultats forts de nos enquêtes, et puis vos retours de terrain le confirment. C'est que je pense qu'il y a controverse parce que, pour deux raisons. Je le vois dans le discours de nos étudiants futurs enseignants. La première, c'est que la mission éducative, elle soulève une diversité de représentations qui n'est pas forcément partagée par tout le monde entre instruction, pour résumer ce que vous disiez, entre instruction et éducation. Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est la diversité des représentations que se font les adultes des publics et de leur capacité à apprendre, à participer, à débattre. Notamment dans le corpus de témoignages d'étudiants, certains disent si j'avais été sur place, je n'aurais pas réalisé la minute de silence avec les publics, parce que je ne voulais pas placer les jeunes enfants dans une situation en relation avec la mort. Donc le sujet de la mort est un sujet tabou pour certains enseignants, notamment dans le primaire. Il y a certainement quelque chose à travailler d'un point de vue des représentations et des questions sensibles ou tabous qu'on pourrait poser. D'autres s'y refusent aussi parce qu'ils craignent des risques de troubles de la paix scolaire, notamment s'il n'y a pas de respect, la peur d'être débordé. Et ils y rajoutent un argument qui me semble intéressant, c'est qu'ils disent cette minute de silence, c'est un rite qui est certes républicain, mais qui est pour les adultes, et que nous pensons que les publics scolaires, notamment lorsqu'ils sont dans le primaire, mais aussi au collège, n'ont pas la maturité pour entrer dans ce genre de travail. Donc il y a aussi des représentations des publics scolaires qui viennent des enseignants, qui peuvent être aussi des freins à certaines initiatives pédagogiques, en plus des représentations de la mission éducative.
Merci. Une synthèse, c'est peut-être beaucoup dire, avec un débat qui est riche et plein d'aspects qui convergent au fond sur la question qui était posée. J'ai peut-être commencé par ce qui m'a frappé, c'est une sorte d'alerte qui a été exprimée concernant l'éducation nationale et la façon dont elle réagit à chaud, dans l'urgence, sans aucune anticipation de problèmes que pourtant, à mon avis, on voyait venir depuis un certain temps. Juste une petite anecdote. Il y a une quinzaine d'années, mais peut-être un tout petit peu plus, j'avais essayé de monter une équipe de recherche à Lyon sur les questions justement de laïcité, religion, fondamentalisme, troubles dans les établissements. Les uns me disaient ça n'intéresse personne, et d'autres, je dirais pas qui, disaient que ça n'intéressait personne, puisqu'ils en parlent beaucoup maintenant. Et puis au rectorat et dans l'établissement, on me disait c'est trop chaud, c'est trop dangereux, on vous ouvre pas les portes, malgré toute la considération qu'on peut avoir à la fois pour l'université et pour vous. Bon, pas d'anticipation, et tout à coup, dans l'urgence, effectivement, on se met à essayer de monter un certain nombre d'opérations, etc. Je crois qu'il faudrait peut-être y réfléchir. Deuxième aspect que j'ai retenu des débats, ça a traversé toute la séance, c'est la question justement des enseignants démunis, désarmés, qui peut-être d'ailleurs paradoxalement maintenant croulent sous des quantités de sites, d'infos, et qu'ils ont du mal à sans doute mettre en forme, alors que par ailleurs ils ont leurs cours d'histoire, les programmes qui les appellent, les parents qui disent est-ce que vous avez fait le programme pour l'examen, etc., etc. Et lié à cela, effectivement, la nécessité d'une formation professionnelle, donc mise à disposition de ressources et peut-être de principes de hiérarchisation des ressources qui seraient peut-être intéressants à mettre en place. Bon, les formations qui se développent, mais j'ai été aussi intéressée par l'idée de formation professionnelle qui soit proche des situations. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, qui donne des ressources et des armes pour analyser les situations dans lesquelles, compliquées dans lesquelles les enseignants sont. Troisième aspect, la discussion sur les valeurs de la République et ce que j'appelais tout à l'heure la nécessité sans doute de travailler à une universalisation des valeurs qui ont été appelées humanistes, je n'y reviens pas, mais aussi la question qui rebondit, c'est-à-dire comment éduquer aux valeurs. Comment éduquer aux valeurs, ça renvoie au débat qui a un peu circulé depuis hier sur la croyance et les savoirs. Je crois que la question de l'émotion suscitée par les attentats, mais réinjectée dans l'école par le biais de la minute de silence, l'a bien montré. Et ça alerte de nouveau, je pense, sur... ce que j'avais appelé tout à l'heure les incantations aux valeurs de la République et l'aspect quelque peu religieux d'un certain nombre de pratiques. La minute de silence, elle est effectivement peut-être à la fois de l'ordre pour certains de la prière laïque et pour d'autres du recueillement laïque, la communion civile aussi peut-être, hein, et cet aspect tout à l'heure relevé justement concernant à la fois ce qui est de l'ordre d'un recueillement et d'une communion et ce qui est de l'ordre du respect d'autrui mériterait probablement d'être clarifié encore et poursuivi. Dernier point sur lequel je pensais dire un mot, c'est la différence effectivement des deux minutes de silence. Charlie, tout le monde n'était pas Charlie pour des raisons différentes. Certains qui étaient prenaient position pour la liberté de conscience et la liberté d'expression pouvaient très bien ne pas se sentir Charlie parce qu'ils disaient pas Charlie. Mais en même temps solidaire de Charlie. Enfin bon, c'était une histoire assez compliquée. Et quelqu'un a qualifié ce moment-là de dire que c'était politique. Hein, la question des prises de position concernant Charlie, c'était politique. Bon, c'était oui, bien sûr. Mais il me semble que la novembre était peut-être encore plus politique en un sens plus large. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été souligné plusieurs fois, novembre, au fond, tout le monde était dans le bain. Tout le monde était concerné. Les jeunes qui ne s'étaient pas sentis Charlie et qui éventuellement n'avaient pas fait la minute de silence pour des raisons multiples, se sentaient, Bataclan ou terrasse de café, parce que c'est leur vie.
C'est leur mode de vie, ouais.
C'est-à-dire que c'est leur mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont ressenti, eux, à ce moment-là, c'est que c'était une conception de la cité, de la société, à laquelle ils adhèrent, même s'ils la contestent, bien sûr, mais bon, à laquelle ils adhèrent, et qui était mise en cause. Et je crois que ça a été un moment politique qui a attiré l'attention sur le fait que la question de la laïcité et la question des religions, c'est une question politique, pas seulement, bien sûr, qu'il y a des tas d'autres dimensions, on le sait, mais c'est une question politique. Je m'arrêterai là.